10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, vous le savez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Nous sommes vendredi, et qui dit vendredi, vendredi, vous savez, eh bien le week-end pour beaucoup, mais surtout les vacances. Ah là là, certains vont pouvoir se régaler. Eh bien je vous souhaite de passer de bonnes vacances, mais surtout, n'oubliez pas une chose, l'application vous suit partout dans le monde. Eh oui chers amis, l'application Beurre FM. Allez, au sommaire de cette émission, vous le savez, pour clore cette semaine, nous allons accueillir Abdelkrim Branine qui parle de plagiat. Il accuse Amazon et Canal+ d'avoir plagié son ouvrage. Ensuite, après, direction Argenteuil, nous parlerons avec Yasmina de l'association Solidarité pour parler de la situation à Gaza et la manifestation justement qui se déroule notamment sur la ville d'Argenteuil, mais partout, forte mobilisation en France. Nous parlerons aussi, vous savez quoi, chers amis auditeurs, eh bien, avec nos débatteurs influenceurs, de cette agression de Samara à Montpellier. On a tenté de joindre la maire, elle sera avec nous, j'espère, tout à l'heure, mais surtout cette ado qui sort du coma, d'un long coma. Alors, on va en parler parce qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps, évidemment, de décrypter ce qui s'est déroulé. Beaucoup considèrent que effectivement, ça va trop loin. Anne Hidalgo appelle à la démission du président de la commission. Vous savez, le président de la commission a eu l'idée d'aller chez Cyril Hanouna dans TPMP. Sauf que le président de la commission a oublié qu'il a présidé une commission quand même. Il a balancé à tout va. Bon, il s'est lâché un peu, on va dire. Clochette quand même. Il a le droit à une petite clochette, ce petit président de la commission de la TNT. Non mais, on se lâche pas comme ça dans une émission, cher ami. Quand on veut régler ses comptes, attendez un peu. Attendez.
Il est très jeune, je pense.
Attendez que la commission tranche. Non, bon, bref. Là, et vous savez, c'est toute la gauche qui réclame la démission. Alors, il a du mal un peu à se défendre, mais la polémique, elle prend. La situation à Gaza. Alors, on va parler de la guerre, parce que la situation humanitaire, elle préoccupe. Beaucoup d'humanitaires se sont retrouvés tués. Hein, une enquête est ouverte. Eh bien, on va en parler. On va en parler parce que, évidemment, il y a des questions qui se posent. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup réclament le cessez-le-feu. Alors, pourquoi il n'y a pas ce fameux cessez-le-feu? Pour quelle raison ça bloque? Sauf qu'en attendant, vous savez quoi? C'est des enfants et des femmes qui meurent chaque jour. Clochette. Ça mérite une double clochette. Si on a le temps, parce que vous savez, les débatteurs, ils parlent beaucoup. Bompard. Manuel Bompard. La mienne, Manuel Bompard. Je suis pas souvent d'accord avec des déclarations d'Elefi, mais là, pour le coup, Bompard, il a eu raison quand même. Hein. Faut le reconnaître. Hein. Il a dit que la laïcité, elle est menacée par toutes les religions. Ben, vous savez quoi, on va essayer de creuser un peu plus. Oui, vous n'êtes pas d'accord, Karim, ici, on va creuser un peu plus.
Et la laïcité est menacée par les islamistes, pas par les religions.
Non, Le débat n'a pas commencé. Il ne veut pas noyer le poisson. Non, c'est très profond ce qu'il dit. Attention, c'est pas la première.
Manuel Bompard.
Bompard, c'est pas la première grille de lecture qu'il faut avoir. Il faut lire ce qu'il y a de sous-jacent. Bah oui, c'est votre boulot, hein, débatteurs influenceurs. J'aime bien.
Je le réponds.
Vous êtes marrant, vous êtes là pour ça. Hein, vous n'êtes pas là pour briller simplement au micro. Hein. Tout à l'heure, le docteur Majid Séhoussine, il viendra nous livrer son billet d'humeur. Et oui, ça va tacler, vous allez voir. Il est costaud, hein, le docteur. Et puis vous, vos 01 53 48 3000. Oui, en toute liberté d'expression, j'y tiens absolument. Vous venez, vous participez, vous commentez l'actualité comme chaque soir et c'est de la bombe atomique parce que vous êtes très nombreux.
Et pas comme chaque soir.
Comme chaque matin. C'est vrai, vous avez raison. Mais ouais, mais moi, je suis encore resté connecté le soir parce qu'on a. Oui, j'explique à nos auditeurs, on a basculé le matin en attendant que le programme avec Philippe le soir, puisque c'est spécial Ramadan.
Bien sûr.
Dès la semaine prochaine, on va reprendre le créneau du 19h. Mmh. Voilà. C'est quand même mieux, non, le soir, quand même.
Hein. Ouais.
Le soir, c'est bien.
Non, mais le matin, c'est pas mal non plus. C'est un autre concept.
Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Avec Abdelkrim Branine. Abdelkrim Branine, bonjour. Comment ça va, mon cher Abdelkrim?
Bonjour, Abdel, ça va très bien. Bonjour à tous.
Bon, content de vous recevoir ici même. Vous allez parler de. Alors, vous avez écrit. D'abord, on va rappeler le contexte quand même, Abdelkrim Branine, parce que vous savez quoi? Vous êtes journaliste, vous êtes romancier, vous êtes écrivain, et aujourd'hui, vous êtes retrouvé dans une affaire évidemment de plagiat. Vous avez décidé d'attaquer Amazon et Canal+. Rappelons quand même, parce que vous avez écrit un livre, hein, et c'est ce livre qui a été plagié. Je veux qu'on rappelle un petit peu la genèse de cette histoire, mon cher Abdelkrim Branine.
Oui, quelques mots là-dessus, Adil. Donc j'ai écrit un roman qui a été publié il y a plus de 2 ans, là, qui s'appelle Le Petit Sultan, qui parle d'un jeune espoir du football français d'origine algérienne qui est annoncé comme le futur leader de l'équipe de France, qui ensuite fait une bêtise et se retrouve écarté des Bleus, ciblé par la fachosphère, par plusieurs journalistes. Donc il se remet en question, il traverse une crise identitaire. C'est un roman qui parle des fractures identitaires concernant la France d'aujourd'hui. Donc il est sorti en 2022 et le mois de janvier dernier, j'ai vu qu'un film qui est diffusé, qui était produit sur Amazon Prime, qui s'appelle Numéro 10, reprend exactement la même histoire, hein, d'un binational qui est ciblé par la fachosphère, etc., des questionnements identitaires. J'ai engagé un avocat qui a fait parvenir une mise en demeure au producteur du film. C'est une boîte qui s'appelle Marvelous Productions, qui a été fondée par les deux anciens boss de Pathé Film. Je le précise pour qu'on comprenne que j'ai affaire à des mastodontes, des géants du milieu. Et ensuite, j'étais encore dans cette histoire que j'ai appris qu'une série qui s'appelle La Fièvre allait être diffusée. Donc là, actuellement, elle est diffusée sur Canal+, qui reprend pareil mon histoire avec beaucoup de similitudes, puisque concernant Numéro 10, moi, on a relevé plus de 20 similitudes et ce qu'on a fait parvenir au producteur.
Ah, 20, vous parlez de 20 similitudes. Alors, 20 similitudes, plus je vous pose la question. Est-ce que 20 similitudes, ça suffit, justement, pour que vous gagniez cette affaire? Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de porter cette affaire. Vous avez clairement, vous accusez clairement et vous dénoncez le plagiat de votre roman par Amazon et Canal+. Juridiquement, qu'est-ce que vous avez évidemment œuvré? Qu'est-ce que vous avez fait précisément, Abdelkrim?
Bah, si vous voulez, moi je suis pas quelqu'un de très procédurier. Je préfère toujours qu'on s'arrange entre nous. Donc moi j'ai fait comprendre à les producteurs du film Mérodi sur Amazon que bon, ils pouvaient pas reprendre mon histoire comme ça. Je veux dire, il y a des arcs narratifs, des choses dans l'histoire qui sont exactement pareilles. Le personnage principal se fait trahir de la même manière.
Mais alors Abdelkrim Branin, j'ai envie de dire Abdelkrim Branin, vous gagnez dans cette histoire-là, franchement. Si vous me dites que 20 séquences suffisent, attendez, il se trouve qu'on a un avocat avec nous, Maître David Libeskind. Est-ce que ce que dit Abdelkrim Branin aujourd'hui, est-ce qu'il peut gagner cette affaire? 20 séquences.
Cher précisé, je suis pas avocat.
J'ai bien compris, je sais bien, je sais bien. Propriété intellectuelle. Mais avec ce que vous entendez.
Mais oui, bon, il y a 20 similitudes. Après, regarde l'originalité aussi de l'œuvre. Est-ce que son roman est original, a un caractère original? L'histoire qu'il raconte, est-ce que c'est une histoire originale? Donc, ils vont se baser là-dessus. Après, 20 similitudes, donc ça dépend ce qu'on entend par 20 similitudes. Hein. Moi, j'ai pas le dossier sous les yeux. Mais bon, il a raison. De toute façon, il a raison. Il faut se battre. Parce que c'est pas une nouveauté dans ce milieu.
Est-ce qu'il devrait porter cette affaire juridiquement?
Bah, bien sûr.
Oui, bien sûr. Vous entendez? Mais c'est vrai, cette affaire-là, pourquoi vous la faites pas porter, Abdelkrim Branin, juridiquement?
Mais si, d'après ce que j'ai compris, il a déposé plainte. Après, il y a une procédure
qui va.
C'est en cours. Voilà, il y a une procédure
qui va. Pour donner des précisions concernant les affaires de plagiat. Donc, tout d'abord, c'est une mise en demeure. Une mise en demeure. Et ensuite, s'il n'y a pas moyen de s'arranger, entre guillemets, entre nous, on peut porter plainte. Par contre, il faut connaître, et évidemment, j'en ai longuement discuté avec mon avocat, et avec, là, c'est Maître de Benfic qui est présent sur le plateau, le dit, c'est quelque chose, malheureusement, de très courant dans le domaine culturel,
dans ce domaine.
Voilà, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Il faut savoir qu'une affaire de plagiat devant la justice, c'est très long, c'est coûteux, et c'est la roulette russe. C'est vraiment, il y a une part, si vous voulez, de subjectivité à la discrétion de la justice.
Parce que c'est vrai, pour reconnaître les plagiats, c'est très compliqué à justifier. Moi, je le sais, parce que connaissant un peu le domaine et notamment avoir discuté avec certains, c'est très très compliqué, Abdelkrim Branin. Hein. Sur quoi vous allez vous baser et vous appuyer justement pour étayer vos...
L'histoire que vous développez dans votre ouvrage n'est pas en tant que telle, n'a pas une spécificité... Enfin, à mon sens,
il vous a dit quand même.
Non, mais après, il faut voir en fait les.
Donc, nationalité, l'Algérie.
Oui, mais d'origine algérienne, il parle d'un joueur de foot qui, si j'ai bien compris,
alors, juste pour donner quelques précisions.
Abdelkrim.
Moi, d'écrire un roman sur. Prendre le en toile de fond le football pour parler des fractures identitaires, je vous le dis, il n'y en a pas. Avant moi, il n'y en avait pas. En tout cas, moi, j'ai regardé, il n'y en avait pas. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait pas parce que ça m'a pris un jour, parce que moi, je l'ai dit dans plusieurs interviews, le premier article que j'écris sur le sujet, c'est en 2004. Donc, si vous voulez, ça fait 20 ans, c'est ma spécialité. Ce livre, c'est un aboutissement, c'est quelque chose que je connais par cœur. Il suffit que je regarde le film numéro 10 ou encore La Fièvre, sur laquelle je vais dire quelques petits mots rapidement, pour s'apercevoir que les scénaristes n'ont aucune connaissance de ces sujets. Que ce soit sur le football pur, mais moi, c'est pas le football pur, évidemment, sinon on regarde le football, mais ils sont de football. Mais sur la dimension sociétale du football, ils ne connaissent pas ces sujets. Et pour dire quelques mots...
Donc voilà, ça suffit suffisamment que vous ayez gain de cause, comme on dit. Hein.
Et pour dire des choses sur La Fièvre, maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la fin de la diffusion de la série La Fièvre, qui va... Elle est diffusée jusqu'à mi-avril, il reste encore deux épisodes. Déjà, le dossier, si vous voulez, il est assez lourd. Il y a encore d'autres similitudes, peut-être, qui vont arriver. Moi, après ça, je vais aussi expliquer au public, par A plus B, via une vidéo, avec... Après, si vous voulez, la difficulté aussi, et l'avocat qui est là pourra peut-être aussi vous l'expliquer, c'est que quand il y a une différence de support, moi, c'est un roman, c'est une adaptation filmée. Oui. Si ça avait été un autre roman, évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile à prouver. Mais il y a des choses qui sont tellement flagrantes. Enfin, je veux dire, moi, j'ai regardé l'épisode 4 de La Fièvre la semaine dernière. Il y a des choses... Enfin, je suis tombé de ma chaise, quoi. Vraiment, c'est incroyable comment ils ont pompé mon livre, quoi. Donc, moi, je ferai, en tout cas, pour le public, une vidéo pour... Oui. D'après des passages de mon roman, leur montrer comment ils ont repris exactement les mêmes choses dans cette série La Fièvre.
Dites-moi, Abdelkrim Branine, est-ce que vous avez entamé une ouverture de discussion, un début de discussion avec Amazon et Canal+?
Alors, Amazon est le diffuseur. Nous, dans ces cas-là, on s'adresse aux producteurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi, je me suis adressé aux producteurs de numéro 10. Bon, pour l'instant, on va dire qu'ils veulent rien entendre, mais le problème, si vous voulez, Adil, c'est que lorsqu'on est un gros, lorsqu'on est Amazon, ou lorsqu'on est Canal+, c'est-à-dire l'Empire de Bolloré, et qu'on a affaire à un petit, entre guillemets, comme moi mon livre a été publié dans une maison d'édition indépendante, je vous le dis, l'affaire, pour eux, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête, ils se disent que ça... Et c'est souvent comme ça qu'on est plagié, parce que les gens se disent, il est petit, nous on a une horde d'avocats, etc. Tout ce qu'il y a, c'est que moi, par contre... je ne me laisserai pas faire, parce que je le disais tout à l'heure, c'est un travail qui s'étale sur des années, 15, 20 ans, que j'ai beaucoup travaillé pour ce livre. D'ailleurs, le livre était tellement bon qu'ensuite, le journaliste Daniel Riolo m'a proposé d'écrire un livre avec lui qui s'appelle K.O. Football Club, qui est sorti quelques temps après. Ça, c'est pas un roman, c'est une enquête. Je suis passé dans l'afterfoot de RMC, je suis passé dans SoFoot. Donc, si vous voulez, la qualité, le succès critique, le succès d'estime de mon livre, Le Petit Soucan, était là. Donc là, maintenant, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai valoir mes droits. J'attends la fin de la diffusion de cette série La Fièvre. En attendant, moi, le public, je l'encourage à préférer l'original à la copie. Voilà, mon livre s'appelle Le Petit Soucan. Si vous voulez vous faire une idée, lisez ce livre, regardez numéro 10, regardez La Fièvre, et vous ferez une idée vous-même.
Bah écoutez, affaire à suivre, hein, on va suivre ça de très près. Vous nous tenez au courant, Abdelkrim Branine, parce que c'est vrai qu'on va suivre le feuilleton vous concernant avec votre roman Le Petit Soucan, qui a été plagié, je le rappelle, Abdelkrim Branine. Vous avez envie de dire un mot à nos auditeurs?
Déjà, un grand bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM. Je leur souhaite une bonne fin de Ramadan. Encore une fois, bravo pour tous ces programmes. Vous nous régalez là pendant le Ramadan. Et puis, je salue également à l'occasion la patronne de la radio, Jima Kétan, qui fait toujours un gros travail pour maintenir cette radio à flot. Et voilà, bravo à tous. Bravo
Jima, merci à Abdelkrim Branine. Jima, effectivement, c'est la patronne de la radio qu'on embrasse très fort. C'est votre histoire, Abdelkrim Branine. Vous nous tenez surtout au courant. Donc, il a décidé de dénoncer le plagiat de son roman par Amazon et Canal+. Au plaisir, Abdelkrim Branine. À bientôt.
Au plaisir, Adil. Salut, bonne journée.
Direction Argenteuil. Vous savez quoi, où je vais accueillir Yasmina à Argenteuil. Bonjour, Yasmina.
Oui, bonjour, Adil.
Comment allez-vous tout d'abord? Vous allez bien?
Ça va très bien, je vous remercie. Alors,
vous représentez l'association Argenteuil, Solidarité Palestine, justement. Et vous allez nous parler, vous savez quoi, de cette manifestation, un rassemblement qui se déroule sur la dalle d'Argenteuil à 15h. Parce que vous avez décidé, aujourd'hui, trop c'est trop, y compris ces humanitaires qui ont été tués récemment. Dites-nous-en un peu plus, ma chère Yasmina.
Bah écoutez, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous recevoir sur votre antenne. Je souhaite une bonne fin de Ramadan à tous les musulmans qui nous écoutent, bien que ce mois-ci n'a pas été comme les autres mois, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Donc, je représente l'association Argenteuil Solidarité Palestine, qui organise un grand rassemblement demain samedi 6 avril de 15h à 17h à la dalle d'Argenteuil, à côté de la gare du Val. Donc, nous demandons à toutes les personnes de venir nombreux nous demandons simplement 2 heures de leur temps, de 15h à 17h. Nous serons en présence d'infirmières qui ont pu quitter la Palestine ces derniers jours. Elles étaient à Gaza, elles vont témoigner. Venez écouter leur témoignage.
Oui.
Nous serons également en présence de la députée de France Insoumise, Rima Hassan. Donc nous demandons à tout le monde, à tous les auditeurs qui nous écoutent, on ne peut plus rester insensible à ces enfants.
Oui, parce que vous dites stop génocide. Dans votre, évidemment, dans votre affiche, hein, on voit bien halte au massacre des Palestiniens, stop génocide Gaza, cessez le feu total et permanent. Hein.
Absolument, Adil, comment peut-on appeler cela une guerre quand c'est une armée qui massacre des civils? Moi, dans mon esprit, de toute ma vie, une guerre, c'est une armée contre une armée. Ça, c'est une armée qui massacre des civils, au su et au vu du monde entier. Comment peut-on supporter ça? Si les gouvernements ne font rien, nous, les peuples, on ne peut pas rester insensibles. Nous organisons des manifestations, nous appelons au cessez-le-feu constamment, tous les samedis. L'association Argenteuil Solidarité Palestine à une tonnelle au marché d'Argenteuil tous les dimanches, nous sommes là pour expliquer, pour crier notre ras-le-bol de cette guerre qui n'en est pas une, de ce massacre des enfants qui sont mutilés chaque jour, des femmes qui sont violées chaque jour, les gémissements des prisonniers sous la torture et l'humiliation au quotidien. Comment peut-on rester insensible à tout ça?
Nous merci Yasmina.
Tous les auditeurs.
Oui. Non, je disais merci parce qu'il faut que je lance la pause, c'est pour ça. Hein. On l'aura noté, mais en tout cas, on l'a très bien compris. Donc le rendez-vous, il est noté, c'est sur l'esplanade de l'Europe, la dalle d'Argenteuil, samedi 6 avril de 15h à 17h. Vous l'avez dit, en présence de plusieurs personnalités, dont Rima Hassan. Merci à vous, Yasmina, qui représentait l'association.
Écoutez, je vous remercie et nous comptons également sur votre présence, Beur FM. Vous avez toujours été là, nous comptons sur votre présence.
Merci à vous, Yasmina. Donc le rendez-vous, il est noté. Merci. Et bonne merci manif, bon courage à vous. On marque une pause et on se retrouve avec les débatteurs influenceurs qui sont prêts donc à commencer les débats. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Merci. Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
C'est parti pour le face-à-face, chers amis.
Les informés. Le face-à-face.
Juste avant de lancer le face-à-face, je tiens à le dire, puisque je viens d'apprendre la nouvelle. Rima Hassan, vous savez, pour les élections européennes, elle sera chez mon confrère, donc lundi matin, à ne pas manquer dès 8h chez Asdine Ahmed Chaouche. Allez, Karim Maloum, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, enfant.
Tout va bien.
Nickel.
Et Bouba, bonjour.
Bonjour Adil Farkan.
Tout va bien?
Très, très bien.
Maître David Libeski, bonjour.
Bonjour.
Absolument.
Bonjour.
Augustin Varac, bonjour.
Bonjour.
Allez, messieurs, vous savez quoi? Nous allons aller direction avec l'agression de l'adolescente, cet ado qui a subi dans l'après-midi à Montpellier, dans le collège Arthur Rimbaud, dans un quartier populaire. Cette jeune fille traumatisée, sa mère complètement déchirée, traumatisée. Cette agression avec des accusations, mais surtout aujourd'hui, la question qui se pose. On parlait de vêtements, trop courts, elle était vraiment, elle sort d'un coma, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Tout ça pour des histoires, évidemment, on va rappeler un peu les faits. Karim Maloum, allons-y.
Bah, les faits rapidement. Pour comprendre ce qui s'est passé à Montpellier, il faut juste rappeler que la femme est l'obsession des islamistes. Pour eux, la femme doit rester à la maison.
La femme, tout court.
En fait, le sexe féminin. Donc, en fait, les filles doivent rester à la maison, s'occuper de leur père, s'occuper de leur mère, s'occuper de leur frère. Et quand ils vont grandir, vont s'occuper de leur mari. Et quand ils viennent sur la place publique, elle doit être voilée. Et cette fille qui a été agressée...
Mais là, on parle d'ado, là, quand même. Hein.
Seulement. Je parle d'aveu. Elle a été agressée. Pourquoi elle a été agressée? Elle a été agressée parce qu'elle s'habille en tant que femme, en tant qu'ado, libre, à l'occidentale. Elle a été agressée par qui? Par une femme voilée, qui lui reproche de ne pas être voilée. En fait, on reproduit le schéma. Si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne pourrait pas comprendre cette agression. Le rapport du Sénat de mois de mars dernier a alerté, a titré son rapport... L'école de la République est en danger à cause de la misogynie qui domine, à cause des agressions, à cause du discours religieux qui fait surface et domine les enseignants. Les enseignants aujourd'hui, ils hésitent même à parler des choses qui relèvent de la science parce qu'ils ont peur. Et même les parents agressent les enseignants parce qu'ils viennent dire que vous n'avez pas enseigné dans ce genre de cours. Je pense, effectivement, moi je suis un camusien, j'ai toujours défaut mettre les mots sur les mots. Pour moi, l'islamisme, ce qu'on appelle l'islam politique, Parce que les musulmans ne sont pour rien. C'est des croyants, ils vivent leur vie, ils vivent leur croyance. Je parle de l'islam politique, ce qu'ils veulent mélanger le spirituel et la vie quotidienne. C'est une menace non seulement pour l'école, c'est une menace surtout pour les musulmanes et les musulmans. Les premières victimes des islamistes, ce sont les musulmans. La laïcité, les chers amis, chers mes compatriotes musulmans, notre solution, notre avenir, elle est dans la défense de la laïcité. La laïcité, elle ne s'oppose pas aux musulmans, elle protège les musulmans.
C'est vrai.
Absolument. Je crois que je rejoins Karim dans un sens, en fait. Parler de laïcité, je crois qu'aujourd'hui, c'est un mot important. Et d'ailleurs, c'est la solution sine qua non. Puisqu'aujourd'hui, si on ne fait pas de plagiat, ou on essaie de mettre les mots sur les mots, comme vous le dites, aujourd'hui, le fond du problème, la maladie qui engraine, c'est effectivement l'effet de la laïcité dans la République. Je crois que c'est important. L'école, c'est la République et il faudra instaurer la République. S'il le faut, essayer de faire une assise nationale dans ce sens-là, essayer de discuter les partenaires, les uns les autres pour en parler. Parce que c'est honteux, en fait, en quelque sorte. Et nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que nous constituons tous la République.
Rappelons quand même que cet événement ne date pas d'aujourd'hui. Hein,
ça fait 20 ans, 30 ans, ça existe.
Ça fait quand même 30 ans qu'on parle, évidemment. Voilà. Sauf que là, effectivement, là, on peut considérer...
Vous imaginez, moi j'ai des filles. Excusez-moi, j'ai intervenu une deuxième fois. Vous imaginez, aux auditeurs, que votre fille, elle est agressée parce qu'elle ne porte pas le voile. On va devenir fou. Ouais. On ne peut pas l'accepter. Nos filles sont libres de s'habiller comme ils le souhaitent.
Il faut que la République soit forte.
Voilà, la République soit forte. Il doit les arrêter, il doit les sanctionner. Et les parents,
on a une République faible.
Attendez, pas tous en même temps.
Et on a aussi un pas de vague. On a aussi un pas de vague. Oui, excusez-moi. J'ai pris froid avec. Bon, je prends froid régulièrement. Et on a aussi un pas de vague qui étreint à grande vitesse l'éducation nationale. Le pas de vague, c'est un bordel. Ça fout le bordel. On a une République faible. On a aussi, je pense, des solutions qu'aucun parti n'arrive à porter pour l'instant, puisque le parti au pouvoir ne donne aucune solution à ça. Pourtant, il y a eu des rapports qui datent depuis 20 ans, 30 ans, comme on disait, et je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ouais. Maintenant, les solutions, c'est quoi?
Sauf que là, on vient d'apprendre, c'est quoi? Il y a aussi un collégien qui a été roué de coups dans l'Essonne aussi,
voilà,
évidemment.
À Viry-Châtillon, j'ai entendu.
Voilà, exactement.
Donc, ça va être quoi? Des caméras? On va avoir des caméras?
Un adolescent de 15 ans.
Il est dans le coma. Là.
Ouais. Il est entre la vie et la mort. Hein. Ouais. C'est très, très chaud pour lui, le pauvre.
On attend d'être entre la vie et la mort. Et non pas d'attendre une énième commission.
Il a été massacré.
Voilà. Il faut sanctionner sévèrement.
Et le pas de vague, il y en a ras-le-bol. Le pas de vague.
Maître David Dibisky.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, parce que en fait, vous portez ce malheureux accident en fait sur le plan de laïcité.
Ce malheureux accident.
Alors que c'est un défi indifférent. Alors non, mais
c'est un accident. Vous avez écouté, laissez-le développer au moins. Ne lui tombez pas dessus, puisqu'il a même pas fini sa phrase.
Non, mais c'est un malheureux incident. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous portez ça sur le terrain de la laïcité. Donc en fait, vous envenimez le problème, alors qu'on est face à un différent en fait entre collégiens de 14 ans. Je veux dire, c'est pas la laïcité. Après qu'un collégien, alors on ne sait pas. Déjà, il y a une enquête en cours, une enquête administrative, une enquête judiciaire en cours. C'est indifférent entre collégiens, c'est pas indifférent entre un enseignant et un élève. Mais vous parlez d'atteinte à la laïcité. Là, on n'est pas du tout dans le cas d'une atteinte à la laïcité. La grosse problématique, c'est la violence des jeunes de 14 ans.
Et pourquoi cette violence?
C'est religieuse, là.
Non, c'est religieuse. Vous parlez d'islamisme, mais vous ne savez même pas, en fait.
Sa mère dénonce. Ah bon, sa mère dénonce. Je vous dis juste qu'elle dit sa mère. Sa maman dénonce un harcèlement lié à sa pratique religieuse et une faillite.
Vous êtes dans le déni, maître. Vous êtes vraiment dans le déni.
Bien sûr.
Non, mais faut bien nommer.
Dans le relativisme.
Attendez, je vous ai laissé. Ibouba, Karim Maloum et Augustin Varg. Parlons-en. Avec y compris le jeune de 15 ans qui est entre la vie et la mort aussi. Ça aussi, c'est.
Alors, moi, maître, je vous dis tout de suite objection. Voilà, donc je parle à un
homme,
vous
allez comprendre, c'est la neige.
Non, mais il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, ce que je voudrais juste vous faire comprendre, pourquoi parlons-nous de laïcité? Le problème est que c'est un problème qui est lancinant. C'est un problème qui dure depuis des années et des années. Nous avons écouté, excusez-moi, moi je vous dis, c'est ma vision spontanée des choses. Après maintenant, vous êtes libre d'analyser comme vous voulez, mais j'ai mon analyse à moi. d'après les faits, d'après ce que moi j'ai, je ne suis pas non plus juge, en plus, en quelque sorte, mais à ma vision spontanée des deux choses, quand j'entends des choses pareilles et que la maman s'exprime dans ce sens-là, écoutez, ça fait mal d'avoir son fils et de voir que son fils est roué par des coups parce que justement sa façon de s'habiller ou sa façon d'être. C'est des adolescents, c'est des ados, mais les ados. Et le problème des ados revient encore sur la table.
Ouais.
Puisque l'éducation de base devient
mais vous avez entendu ce que disait Maître David Levinsky. Vous avez capté. Non, attendez.
Attendez.
Ce que je veux vous dire quand même, c'est que vous l'avez. C'est pour ça que je voulais l'écouter attentivement. Il a quand même dit quelque chose. Il a dit ne pas ramener, là, évidemment, l'événement à la laïcité. Il n'a peut-être pas tort, il faut l'écouter.
Mais ça la concerne, la laïcité, quand même.
Je réponds. Seulement ce que mon voisin ne veut pas admettre, c'est que c'est un acte religieux.
Non, bon,
attends, laissez-moi terminer. C'est un acte religieux parce qu'on agresse une fille, parce qu'il ne porte pas le voile, c'est un acte religieux.
Exactement.
C'est une atteinte à la laïcité. La laïcité, c'est la séparation, c'est la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire, de s'habiller comme on le souhaite, selon la loi. Deuxième point, il a été agressé par des jeunes mollas qui sont la police des vêtements dans les écoles aujourd'hui. Êtes dans le déni, maître. Vous êtes dans le déni, vous ne pouvez pas l'admettre.
Pas n'importe quoi.
Le
collégien n'a pas été agressé par des mollas.
Il se comporte comme des mollas. Vous ne pouvez pas l'admettre que l'islamisme qui rentre dans les écoles, ils sont en train de porter atteinte à la cohésion nationale et porte effectivement, c'est un acte anti-laïque, dans le sens où fille ne porte pas le voile, c'est un acte religieux.
Il y a combien
Maître
de,
David Libeskind.
Il y a combien d'incidents relatifs à la laïcité?
Des milliers.
Il y en a plein.
Donnez-moi
un chiffre.
Le rapport du Sénat, ils disent l'école est en danger.
C'est 3000 de milliers de collèges et il y a combien d'écoles?
Monsieur, maître,
il y a combien d'écoles?
Mais il faut pas relativiser.
Il y a combien d'écoles?
C'est beaucoup aussi.
Laissez-le parler.
Attendez, on s'entend pas sinon.
Non, mais il faut remettre les choses à leur juste mesure. Après, alors moi j'ai vu 3000 incidents sur laïcité sur 60 000 collèges. Donc il ne faut pas faire en fait de fait.
Et ça comprend le harcèlement?
Non. Là, je ne parle pas du harcèlement. Vous parlez de laïcité.
Déclaré.
Vous parlez de la laïcité, donc je me mets sur ce terrain de la laïcité. Ne faites pas de faits divers un fait.
Je ne peux pas l'accepter.
Non, mais en fait, vous raisonnez comme l'extrême droite.
C'est un acte politique.
Toute la population.
Écoutez,
il y a encore un jeune aujourd'hui.
Ces atteintes à la laïcité, j'en entends parler depuis 30 ans.
Moi, je vous entends. Écoutez-moi très bien. Moi, je vous entends.
Je ne dis pas que le problème existe, mais arrêtez de faire le fait divers,
un jeu de société. J'espère que ça n'arrivera pas à vos enfants. Si vous dites à vos enfants, vous ne direz pas ça.
Celui qui est le jeune de 15 ans qui est entre la vie et la mort,
oui,
justement.
Tout à fait.
Mais aussi,
en fait, il y a toujours eu des atteintes.
Quelques heures après, d'ailleurs.
Non, mais il y a eu,
à Montpellier, l'Essonne.
Non, mais il y a toujours eu des différends entre collégiens, etc. Moi, ce qui est choquant aujourd'hui, c'est le
degré. Clochette, il faut vraiment que chacun tente de rejouer. Sinon, on ne peut pas. Sinon, l'auditeur ne comprend pas.
Ce qui est choquant, c'est le degré de la violence. Peu importe la cause de la bagarre ou de la rixe. En fait, ce qui est choquant, c'est que c'est la violence. C'est la violence. La collégienne est tombée dans le coma. Là, ce matin, un autre collégien, en fait, est entre la vie et la mort. C'est ça qui
Mais il ne faut pas relativiser.
C'est ça qu'il faut. Il ne
faut pas relativiser.
Ce sont
des faits divers qui se renouvellent quand même.
Quand vous les additionnez,
c'est grave.
C'est la violence, en fait, qui a été faite à cette collégienne.
Laissez-nous répondre. Quand vous les additionnez un par un, c'est là où vous n'arrivez pas à suivre. C'est là où je ne suis pas d'accord. Quand vous les additionnez un par un, vous allez voir un mouvement de fond dans la société depuis d'années. C'est ça ce que vous ne voulez pas admettre. Bien sûr, c'est une agression.
Mais ce sont des faits divers. En fait, vous
c'est pas des faits divers, c'est des faits politiques, monsieur.
Vous alimentez un discours d'extrême droite.
Si vous voulez que ça soit audible, il faut vraiment que chacun tourne le rôle. Ne vous inquiétez pas. Finissez votre propos.
En indiquant que l'islamisme, il y a un danger d'islamisme en fait qui s'invite dans les collèges et dans les lycées.
Attendez.
Vous alimentez le racisme et vous alimentez.
Attendez, maintenant vous écoutez.
Combattre la violence, la pause. Combattre l'islamisme, c'est alimenter le racisme. Je pense ce que vous faites en me qualifiant d'extrême droite. Vous venez de dire, laissez-moi vous répondre.
Ne dites pas ce que je n'ai pas
dit. C'est une façon même de cautionner.
cette violence. C'est une façon aussi d'admettre que la société doit accepter que le fait religieux rentre dans la société et que l'islamisme triomphe dans nos écoles.
C'est un débat qui date depuis 30 ans.
Ce que vous dites est scandaleux. C'est une atteinte à la laïcité, à l'atteinte à la République. La République, c'est le vivre ensemble.
Je lance la pause et on se retrouve tout de suite après. Il faut qu'on avance, messieurs. Évidemment, on ne vous mettra pas d'accord, c'est le but.
C'est le but du débat.
Le but du débat, effectivement. On lance la pause et on se retrouve tout de suite après. N'hésitez pas, chers auditeurs, 01 53 48 3000, là tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, vous savez quoi? Dernière ligne droite avec Karim Maloum, Ibouba, Maître David Lebesquide et enfin avec Augustin Varc qui se retrouve avec une voix légèrement touchée.
Ouais,
exactement. Allez, vous savez quoi? Nous allons enchaîner. Vous avez décidé tout de suite de parler de la situation de la guerre à Gaza. Alors, parlons de cette humanitaire. Plusieurs humanitaires, paraît-il, hein, je parle en conditionnel encore, tués à Gaza, pensaient exercer sa mission en toute sécurité. Voilà qu'une affaire aujourd'hui se retrouve au grand jour. L'ONG a décidé de suspendre ses opérations à Gaza. Karim Maloum, parlons-en, justement, et la situation à Gaza qui inquiète beaucoup avec ce cessez-le-feu.
Effectivement, la situation à Gaza, on avait parlé plusieurs fois, j'ai intervenu plusieurs fois depuis deux mois sur votre plateau. Il devrait y avoir un cessez-le-feu avant le Ramadan, et ce cessez-le-feu n'a jamais eu lieu. Parce que le Hamas n'a jamais voulu accepter la libération des otages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, j'ai entendu tout à l'heure une intervenante qui organise une manifestation ce week-end à Argenteuil. Elle a condamné, elle a dénoncé la famille, elle a dénoncé tout ce qui se passe, mais elle n'a pas eu le courage de demander la libération des otages. Je pense...
Peut-être qu'elle n'y a pas pensé. Hein.
Mais moi, j'ai dit ce qu'elle a dit.
Comment ne peut-on pas penser à
c'est
ça
un manque, c'est un manque d'humanité. Je dis bien un manque d'humanité de ne pas demander la libération des otages. Même la dernière résolution des Nations Unies a exigé la libération immédiate des otages sans condition. Aujourd'hui, tous les gens qui défendent la cause palestinienne, je défends la cause palestinienne, mais aussi... Je demande la libération immédiate des otages. Tant qu'il n'y aura pas la libération des otages, il n'y aura pas de solution à Gaza. Tant qu'il y a le Hamas, il n'y aura pas de solution à Gaza. Moi, je tiens ce discours de vérité.
Et tant qu'il y a Netanyahou, Netanyahou aussi, d'ailleurs.
Allez-y,
il m'a demandé d'arrêter. Bon. Il a raison.
Écoutez, Karim, je crois que Karim, vous êtes très froid. À mon avis, hein, c'est ma vision des choses. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe est lamentable. Ce que vit le peuple palestinien est tout à fait lamentable. Il y a deux poids, deux mesures. Je suis entièrement d'accord avec vous que pour ce problème, on ne peut pas parler de ce problème aujourd'hui sans parler de la libération des otages, effectivement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, le fond du problème est que ces humanitaires qui sont là pour les civils, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait et qui sont en train d'être tués, je crois que cela, c'est aussi lamentable. Donc, il faut voir deux poids, deux mesures. On peut traiter ce dossier donc sur les deux façades. Mais la vraie question, c'est Netanyahou. Aujourd'hui, je crois qu'il a écouté. La communauté internationale n'a pas cessé de mettre l'accent là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas faire la sourde oreille. À un certain moment donné, il faut s'asseoir
sur une table. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde met la pression, y compris les États-Unis.
Voilà,
mais il faut s'asseoir sur une table. Les États-Unis, à la fois, de livrer des armes et en même temps de mettre des coups de pression.
Mais de toute façon, Netanyahou n'en a cure des menaces des États-Unis ou de la France ou d'ailleurs. Il n'en a rien à taper, en fait. Vraiment, pardon de m'exprimer comme ça. Et le Hamas n'en a encore plus rien à taper de libérer des otages. Donc en fait, ça va durer une éternité, cette affaire, malheureusement. Et on aura beau mettre toutes les solutions de l'ONU, des résolutions de quoi que ce soit, on ne trouvera pas de solution.
Il faut se mettre autour d'une table. Alors, je crois que c'est la solution.
Je suis d'accord avec.
Il est temps de le faire.
Je suis d'accord avec tout ce qui vient de dire. Les organisations pro-palestiniennes ne mettent jamais l'accent sur la libération des otages. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi, pour la crédibilité en fait de leur discours. Ensuite, une guerre n'est jamais propre. Malheureusement, il y a des humanitaires, il y a des enfants, etc. Qui se font tuer. Donc, effectivement, on est tous, je crois, pour la paix ici sur ce plateau. Il faut résoudre ce problème. Mais effectivement, c'est juste un cessez-le-feu à l'égard d'Israël, faut aussi penser à la libération des otages. Et je pense qu'il faut mettre les deux aspects dans le même plateau.
Ouais.
Effectivement, parce que je parlais vite, parce qu'il faut donner la parole. Effectivement, dans mes propos, je rajoute aussi Netanyahu est un problème aussi. Donc, je ne l'ai pas dit parce que bah, j'ai donné la parole.
Oui, mais c'est pas la première fois qu'Israël, enfin, que dans, en tout cas dans, ces, dans ce qu'ils font, c'est pas la première fois qu'ils commettent des exactions et des crimes comme ça à l'aveugle.
Il faut rajouter que la majorité.
Sur l'humanitaire, ne pas voir qu'il y a des camions humanitaires. Il y a marqué humanitaire sur les camions, sur les voitures et tout ça. Pourquoi ils savent, ils ont quand même des systèmes de renseignements qui sont
les auditeurs sachent, mais ayant de la famille d'Israël, que la majorité en fait des Israéliens, alors ne soutiennent pas Netanyahou, ça il n'y a pas de débat, mais en revanche soutiennent l'intervention militaire.
Absolument.
Donc c'est avoir une réflexion là-dessus humanitaires sur aussi. Le droit d'Israël à avoir sa sécurité.
D'accord.
Allez, les 10h51, oui. Et tout de suite, vous savez quoi ? C'est le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf avec la séance de rattrapage, parce qu'on a eu quelques soucis de ligne avec notre ami docteur Majid Soussine. Bonjour docteur.
Bonjour Vadim.
Ah, le son est bon.
Nous serons favorables.
Non, je le sens bien là, je vous lance tout de suite. Allons-y, pour votre billet d'humeur, nous avons 3 minutes précisément, top chrono.
Eh bien écoutez mon cher Adil, on ne peut pas dire que notre gouvernement ne travaille pas à l'emploi des seniors et à la lutte contre le chômage. Il vient de trouver un emploi à Roselyne Bachelot, plusieurs fois ministre, chroniqueuse dans des émissions à fort potentiel intellectuel, comme les grosses têtes, et qui est âgée de 77 ans. Elle vient d'être nommée, tenez-vous bien mon cher, présidente du comité d'histoire des administrations chargées de santé, qui compte en plus d'elle 36 membres. Le gériatre que je ne suis ne peut que saluer cet exemple d'inclusion dans un atelier occupationnel du troisième âge, fait sur mesure. Le citoyen est, lui, beaucoup plus inquiet et se demande quel est le salaire du président. Ah, comme j'aimerais moi aussi être nommé président d'un comité Théodule, mais beaucoup moins drôle. À Gaza, on avait tout vu, les meurtres de civils, les meurtres d'enfants, les destructions d'hôpitaux avec les morts de patients en réanimation faute d'électricité pour faire tourner les machines. Ce qui avait inspiré d'ailleurs ce commentaire fameux de Michel Onfray, notre glorieux philosophe souverainiste. Je suis allé en Israël, j'ai vu ces jérémiades permanentes de Palestiniens qui disent on n'a rien, on ne peut acheter des violons pour que nos petites filles puissent jouer au violon. Sans commentaire. On avait tout vu, mais on n'avait pas encore assisté au meurtre de cuisiniers. Certes, Israël avait déjà tiré sur des pauvres airs faméliques faisant la queue pour une misérable ration alimentaire à au moins 2 reprises, mais jamais sur les cuisiniers de cette organisation humanitaire occidentale qui n'est même pas arabe. Donc, j'ai l'impression que c'est une première mondiale, le meurtre d'un cuisinier. Cela a tout de même fâché un peu tout le monde, même les Américains qui ont gentiment demandé aux Israéliens de ne pas recommencer sous peine de les priver de dessert, ce qui est assez légitime quand on tue un cuisinier. Une autre nouvelle nous afflige et nous attriste. Ce pauvre Jean-Marie a été placé sous protection juridique. Vous me direz que ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à la justice, notamment pour ses jeux de mots fumés. Mais on se dit quand même que Marine Le Pen n'est pas si fine que ça. Mettre autant de temps pour se rendre compte que Jean-Marie était dément et le faire mettre sous tutelle. Voilà.
Mon cher, très bon. Hein. Aucun problème de son. Aucune. Ah, franchement, et le billet est excellent.
Très bon billet.
Très bon. N'est-ce pas,
très
maître
David, très
vous vous rendez compte, maître David Libeski nous dit qu'il est excellent, votre billet. Hein.
Ah, je vous remercie.
Ouais. Augustin Varg aussi.
Très bien, bravo.
Bravo, il est bon le docteur.
Bravo, ouais.
Il est bon,
ouais.
Karim,
très bien.
Il est bon le docteur. Il est bon. Bravo, hein, docteur.
Bravo.
Vous êtes très suivi. Hein. Bah, prenez soin de vous surtout et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, amis.
Allez. Prenez soin de vous. Karim, merci. À très
merci,
bientôt.
Je souhaiterais juste.
On a encore 2 minutes, non, même pas
ouais.
Non
ouais, ouais, je ne reviendrai pas avant l'Aïd. Je souhaiterais une bonne fête à tous les musulmans de France et ceux qui sont, et sont ailleurs. Voilà.
Vous aurez l'occasion de le redire quand même.
Oui, mais.
La semaine prochaine.
Oui, mais je le dis d'avance. Et bonne fin de Ramadan et bonne fête surtout. Voilà.
Bon, et Bouba, à bientôt.
À bientôt. Bonne fête de Ramadan à tout le monde. Surtout à mon ami Tarek.
Ah oui, Tarikou, il est là, Tarikou. Maître David Libeski, à vendredi.
Pareil, dernier mot.
Mais vendredi, ce sera 19h maintenant.
Ouais.
Eh oui, on rentre dans la grâce maintenant.
On va faire la grâce matinée. Youpi.
Ça y est, voilà, la grâce matinée maintenant pour vous. C'est bon ça, non?
Ouais, parce qu'avant, moi, vendredi, c'est toujours le vendredi off.
Ouais,
hein,
ouais.
C'est mon Shabbat de la semaine.
Ouais,
hein.
J'aime bien.
Entre guillemets. Hein.
Ouais.
Et voilà. Donc,
il arrive à 19h, cool, tranquille.
Ouais, cool.
Avec son petit café. Il aura fait ses news le matin et après il finit chez nous.
Ah, voilà,
il est marrant, lui. Augustin Varg, soignez-vous.
Eh ben, merci,
soignez votre voix.
Ouais, bien sûr. Du miel. Hein?
Bah oui, du miel.
Du thym.
Du thym, du miel, ce du que miel, vous voulez, voilà. Je sais pas, moi. Ouais, une petite tasse de.
Ouais.
Hein, vous faites une boisson chaude
boisson
avec
chaude,
du miel.
Ouais,
voilà.
C'est du miel. Bonne fête à tous les musulmans.
Ouais. Bon, c'est la semaine prochaine, vous savez, on sait pas.
C'est
encore,
lundi,
hein.
Dimanche
ouais. On sait pas, c'est soit mardi, soit mercredi. soit mardi, soit mercredi la fête. On ne sait pas encore. On le saura lundi. Ouais. Lundi. Mmh. Messieurs, merci à vous. Merci aux nombreux auditeurs de nous avoir suivis. Merci à Tariqou, le grand Tariqou.
C'est un grand plaisir d'avoir avec nous.
Hein. Bah oui, attendez, vous savez quoi ? Non, mais on le voit jamais. Il est toujours en tournée, le mec. Il est soit en train de. À chaque fois, on l'appelle. Je suis en tournage de film. Ou alors, il est sur scène. Le mec, je sais pas, il est qu'avec des stars.
C'est la vraie star.
Mec, ça, il a pris le melon. Tariq, il a pris le melon.
Pas du tout, je serais pas là, franchement.
Il a pris le melon.
Il y a d'autres choses à faire.
Attends, c'est pas des grands noms.
Mais je suis très content de revenir avec le peuple un peu de temps en temps.
Il parle du peuple avec Mitri.
Non, mais faites plus les émissions le matin, les gars.
Un peu de promo. Vous êtes sur scène.
Je suis en spectacle jusque fin juin à Paris, toujours à l'Apollo, tous les jeudis à 20h, et dans tournée dans toute la France. Dimanche, je suis à Poitiers.
Voilà, Poitiers. Allez-y, les habitants de Poitiers. Voilà.
Poitiers, Le Mans, Reims, il reste encore plein de dates.
Ah, une belle tournée. Hein.
Belle tournée, je vous ai dit.
Ça fait 60 dates.
C'est un grand honneur pour nous qui est
exactement.
C'est moi qui suis honoré d'être là.
Bonne tournée alors.
Bah, merci beaucoup.
Allez, ce soir, c'est Philippe, oui, avec tous les intervenants. Les programmes continuent tout le week-end. À la semaine prochaine, écoutons de plaisir. Ciao, on ne lâche rien.
Et on n'en lâche rien.
Les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.